Contente de vous voir aujourd'hui. On peut allumer un peu plus les lumières, je pense. Il fait sombre, hein? Hey, il y a de la pluie, en tout cas, cette semaine. Puis en plus, il fait froid aujourd'hui. Voilà. Ça s'en vient dans quelques jours. Ça va être l'été. On n'y croit pas tant que ça, mais voilà. Voilà. Ça s'en vient. Le beau temps s'en vient. Je suis contente d'être avec vous ce matin et en fait aujourd'hui ce matin on arrive vraiment on est vers la fin de notre série sur le livre des Proverbes. Donc si vous êtes là depuis quelques semaines, vous savez qu'on est dans une série sur la littérature de la sagesse, donc dans la Bible, un de ces livres-là. Et dans les dernières semaines, nous avons exploré différents sujets pour apprendre à mieux vivre. C'est le titre de la série et on utilisait beaucoup l'image du chemin dans les dernières semaines pour parler de ça. Le chemin de la sagesse, mis souvent en contraste aussi avec le chemin de la folie. Donc, il y avait beaucoup de contrastes. Nous avons vu que le premier pas sur la voie de la sagesse, c'était la crainte de Dieu. Et le deuxième pas, c'était le fait de vouloir être enseignant, donc de vouloir accepter l'enseignement de Dieu. De chercher et de l'écouter. Et nous avons vu aussi l'importance que pouvaient avoir nos paroles. Et la semaine dernière, on a vu les bénéfices aussi à être une personne intègre. Et si jamais vous avez manqué un message, si vous ne pouvez pas être avec nous, vous savez que durant la semaine, vous pouvez retrouver tous les messages sur le site de Nouvelle Vie. Donc, voilà, petite parenthèse. Mais alors qu'on approche de la fin de la thématique, après avoir défini, en fait, pendant cette dernière semaine, à quoi ressemblait le chemin de la sagesse, j'ai intitulé mon message ce matin En marche, en marche, avec un point d'exclamation. Yes! C'est bien beau le décrire le chemin, mais à un moment donné, il faut marcher dessus. On s'entend, vous êtes d'accord? Donc, avec tous ces principes, ces conseils de sages que nous avons vus, maintenant, nous devons nous mettre en marche sur le chemin pour mettre en pratique ce que nous avons appris. Jésus a dit dans Matthieu 7, 24 que quiconque entend ces paroles et les met en pratique ressemble à un homme qui a construit sa maison sur le roc. Et celui qui n'écoute pas, qui ne met pas en pratique, a construit sa maison sur le sable. Donc, quand la tempête arrive, ça s'écroule. Et l'élément essentiel, l'attitude qui va te permettre de mettre en pratique, en fait, ces sages enseignements dans ta vie, c'est le zèle. Le zèle. Le zèle. Le zèle se définit comme étant l'ardeur à servir une personne ou une cause à laquelle on est dévoué. Et le zèle va te donner, oui, l'énergie nécessaire pour mettre ces enseignements-là en pratique, mais aussi pour accomplir tout ce que tu as à faire dans la vie. Le zèle va te permettre ça. Le zèle va te permettre d'accomplir toutes tes tâches dans ta to-do list. Elle est longue, hein? Quelques pages. Le zèle va te permettre de remplir tes engagements, de faire les projets que Dieu te met à cœur, de faire ton travail ou tes implications avec excellence, de prendre tes responsabilités en tant que père, en tant que mère, en tant que frère, etc. Le zèle te permet de passer des paroles aux actes. Les paroles que tu as entendues, donc l'enseignement que tu entends, et aussi les paroles que tu dis aux actes. Donc, juste pas seulement parler, mais les mettre en action. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle en commençant, ça commence mal notre message ce matin. Petite mauvaise nouvelle. Selon un article du New York Times qui est paru l'année dernière, l'émotion numéro un de 2021, ce n'est malheureusement pas le zèle. C'est plutôt le contraire, en fait. L'émotion numéro un de 2021, c'est la léthargie. Ça sonne larve, hein? C'est léthargie. Rappelez-vous, OK, on s'entend, 2021, on est dans une pandémie qui tire à sa fin, qui prend du temps à terminer, OK? Rappelez-vous comment on a commencé la pandémie. OK, les émotions qu'on ressentait, la crainte, l'insécurité, mais aussi le courage de se battre. Les arcs-en-ciel, ça va bien aller, hein? On s'en rappelle, on s'en souvient, il n'y en a plus vraiment en ce moment. La solidarité aussi, le sens de communauté. Mais après un confinement, un déconfinement, des règles, plus de règles, un reconfinement, un redéconfinement, etc., etc., tout ça s'est transformé en une fatigue pandémique et c'est un vrai phénomène qui existe. Ça a été étudié par l'Université de Sherbrooke au mois d'octobre sur 10 000 Québécois Et selon cette enquête, 50% des gens à l'époque souffraient, ben à l'époque, il y a un an, même pas un an, souffraient de fatigue pandémique qui se traduit par un sentiment de fatigue générale, voire de désespoir, une démotivation, un sentiment de laisser aller. Okay, dans le spectre de la santé mentale, okay, entre la dépression profonde et l'épanouissement, donc vraiment quelqu'un qui est en bonne santé, ben entre les deux, il y a comme la pas un c'est pas un burn-out, c'est pas non plus une dépression, mais la léthargie, c'est un état où on a moins de motivation, moins de capacité d'attention. Plus de probabilité à bâcler finalement le travail, moins de joie, moins d'objectifs, bref, tout le contraire du zèle. On s'entend? Les psychologues disent que l'une des meilleures stratégies pour gérer nos émotions, c'est premièrement de les nommer. C'est une première étape. Et quoi de mieux que la parole de Dieu pour mettre en lumière ces émotions de l'expérience humaine? Parce que la Bible nous révèle tellement le cœur humain. Et croyez-le ou non, le livre des Proverbes en parlait déjà il y a pratiquement 3000 ans, en parlait déjà et ça s'appelle dans le livre des Proverbes la paresse. La paresse. Pour savoir comment se sortir de cet état de léthargie et pour retrouver le zèle, je veux commencer en vous présentant le portrait du paresseux qu'on va découvrir à travers le livre des Proverbes. Et ça va être à toi, finalement, d'être attentif et de voir s'il y a des traits là-dedans qui te ressemblent. En d'autres termes, ce matin, si le chapeau te fait, mets-le. Moi, je fais seulement vous exposer la parole de Dieu. Mais avant de plonger dans notre portrait de paresseux, prions ensemble, prions ensemble. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Seigneur, viens parler à chacun de nos cœurs. Seigneur, on est là pour t'écouter. On est là pour entendre ta parole. Seigneur, tu nous parles par ta parole. Tu te révèles à nous. Seigneur, je te prie que tu puisses nous remplir de zèle ce matin. Que tu puisses nous remplir de passion pour ton nom, Seigneur. Viens par ton esprit, Seigneur, toucher nos cœurs. Viens enlever ce qui doit être enlevé et ajouter, Seigneur, à notre esprit et à nos cœurs, ce qui doit être fait, Seigneur, dans chacun de nous. Sois glorifié ce matin. Amen. Proverbe 24, 30, 34, ça commence comme ça. L'auteur nous dit « Je suis passé près d'un champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu de bon sens. Les épines y poussaient partout, les ronces couvraient le sol et son mur de pierre était écroulé. » Des fois, ça ressemble-tu à ça quand ça fait une ou deux semaines que vous n'avez pas passé la tondeuse puis que vous repoussez ce moment-là? Mais j'ai regardé bien et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Voilà ces observations ont mené à ça ici. Tu veux somnoler un peu, te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir. Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. Première caractéristique du paresseux, le premier P du paresseux, c'est la procrastination. Le paresseux procrastine. Et voici ce que l'auteur a tiré de ses observations. Celui qui somnole un peu, qui se repose encore un peu, s'étend pour dormir encore un peu, repousse à plus tard les choses qu'il doit faire, voilà que tout à coup, la pauvreté le surprend, tout à coup, l'échéance arrive. Les chances arrivent. Une ampoule à changer, la voiture à laver, un appel à passer, un examen à étudier, un projet à commencer, des objets à réparer, un courriel à rédiger. En levant la main, qui ici a déjà remis quelque chose à plus tard? S'il vous plaît, c'est ça. Je voulais voir si vous mettiez en application les messages sur la vérité et l'intégrité ce matin, OK? Parce que selon Pierce Steele, un professeur de psychologie, et de sciences comportementales à l'Université de Calgary. Son livre, le titre de son livre, c'est « Pourquoi remettons à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui? » Et lui, il dit que 95% des gens remettraient des choses à plus tard. Donc, j'avoue que ça fonctionne. Notre statistique fonctionne, vous avez été intègre ce matin. Et l'auteur explique que c'est un phénomène qui remonte à très loin dans l'histoire de l'humanité. Voici un extrait dans un article de la presse où justement il va parler de son livre. Le chasseur-cueilleur ne vivait que dans le court terme. La chasse pour manger et s'habiller. Il n'avait pas le choix d'être motivé parce que c'était très vrai, très concret. Avec l'introduction de l'agriculture il y a 9000 ans, nos ancêtres ont découvert les objectifs à plus long terme et la procrastination. On plante au printemps pour récolter des mois plus tard, c'est très long. Du coup, le fruit de l'action n'est pas immédiat. Il faut attendre, travailler pour des résultats à venir dans un avenir lointain. D'où la difficulté de se motiver et donc la tentation de procrastiner. Ça vient de loin, la procrastination. C'est le fait, en fait, de ne pas voir des résultats immédiats ou d'avoir de la difficulté à s'imaginer le résultat qui nous pousse à repousser à plus tard. Le paresseux procrastine parce que l'effort à fournir maintenant ne semble pas valoir la peine pour le résultat qu'il a du mal à s'imaginer. Proverbe 24 nous dit ceci, « À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. » Oh non, ça ne me tente pas, un matin, il fait trop froid. OK? Pour le paresseux, son confort d'aujourd'hui vaut plus que l'effort qu'il va rapporter plus tard. Pourtant, on sait très bien que si tu veux être en santé à 60 ans, il faut que tu commences à bien manger et à t'entraîner aujourd'hui. Si tu veux une maison un jour, tu dois commencer à économiser aujourd'hui. Si tu veux des pommiers dans ton jardin dans 10 ans, faut que tu les plantes aujourd'hui. Nos pommiers font vraiment pitié de notre côté. Ils sont très, très beaux. Il faut que tu les plantes aujourd'hui. En tout cas, il faut que tu les plantes à un moment donné. Là. Ça, on va se le dire. Si tu veux une relation avec tes enfants, ça commence quand ils sont bébés. Si tu veux une bonne relation avec tes ados, c'est pas du jour au lendemain. « Hey, veux-tu te confier à moi? » Non, ça commence quand ils sont jeunes. Pardon, quand ils sont jeunes. Si tu veux te marier un jour, ça commence. Il faut que tu commences à travailler sur toi aujourd'hui. Si tu veux devenir médecin, tu dois commencer à étudier aujourd'hui. Et moi, ça me fascine. Hein? Vous savez qu'on a le projet de faire un jardin d'entraide, un jardin où on va pouvoir nourrir 20 personnes ici dans Charlevoix. Et c'est mon père qui s'occupe du jardin. Ma mère aussi l'aide beaucoup dans le jardin. Quelques bénévoles aussi viennent l'aider. Mais c'est vraiment eux qui sont le plus présents. Finalement, je les vois de l'autre côté de mon terrain. Donc, je les vois travailler. Ça travaille fort. C'est fou, tout l'effort qu'il faut faire. Les semis, le travail de la terre, le désherbage, tout ça, l'arrosage, faire attention à toutes les bébites qui s'en viennent, trouver des solutions, un gros travail. Et là, on vient semer, on vient planter quelque chose. Puis là, voilà, advienne que pourra. Le jardinage, c'est un acte de foi. C'est fou, ça m'a tellement sauté au visage. C'est incroyable. Tout ce travail-là, finalement, tu plantes une petite graine puis tu dis, Seigneur, pourvois. Seigneur, pourvois. Et le remède à la procrastination, c'est d'envisager, en fait, les bienfaits que l'action va nous apporter dans le futur, va nous apporter demain. Autant pour des choses banales comme rapporter tes sacs d'épicerie qui traînent là, qu'il faut que tu les ramènes dans ta voiture, vous savez, ranger le linge propre, bien tout ça c'est le bénéfice d'une maison ordonnée. Tu vas être plus mieux après pour vivre le reste de ta journée. Autant pour des choses importantes, commencer un nouveau projet qui va te donner un sens d'accomplissement et qui va te donner un résultat évidemment par le projet, économiser de l'argent qui va te permettre de voyager, d'acheter une maison. Faire tes impôts avant la date d'échéance pour pas payer d'intérêt et être vu comme un escroc. Le remède à la procrastination, c'est de voir ton action comme un acte de foi. Un acte d'obéissance envers Dieu à faire ce que tu as à faire aujourd'hui. En faisant confiance à Dieu que oui, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. C'est le premier trait de notre paresseux et je pense que ça nous parle à beaucoup parce que 95% des gens, ça fait beaucoup. Premier trait du paresseux, donc il procrastine. Deuxième P du paresseux, il ne produit rien. Voici la suite du proverbe de tout à l'heure. Proverbe 24. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas, mais au moment de la moisson, il voudrait les récolter, mais il n'y a rien. Mais non. Il n'y a rien, c'est une évidence. Si tu repousses à demain, ben rien va n'avoir poussé demain. Okay, il n'y aura rien demain. Parce que quand tu procrastines, tu ne produis rien. Dans notre passage du début aussi, à quoi ressemblait le champ du paresseux? Je suis passé près du champ du paresseux, près de la vigne. Les épines y poussaient partout, les ronces couvraient le sol et son mur de pierre était écroulé. Donc, il n'y a rien qui pousse là-dedans. Là. Rien pousse là-dedans. À part des choses qui sont en fait pas bonnes, des ronces. Il ne pousse rien dans le champ du paresseux parce qu'il ne travaille pas la terre, ne sème pas. Le paresseux n'atteint pas ses objectifs dans la vie. Il voudrait peut-être quelque chose, mais ne travaille pas pour l'atteindre. Proverbe 21, 25, 26 nous dit ceci, les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains se refusent à l'action. Toute la journée, il éprouve des désirs. Oui, il y a des désirs, mais dans le fond, il ne les accomplit pas. Le juste, en revanche, donne sans retenue. Proverbe 13, 4, le paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, tandis que les personnes actives sont comblées. Et moi, j'écoute le podcast de Mathieu Desroches. C'est quelqu'un qui a déjà été pasteur jeunesse à Nouvelle Vie. Et maintenant, il est devenu un expert en organisation, en productivité. Et il offre toutes sortes de formations à des gens, du coaching aussi, pour aider les gens à mieux s'organiser dans la vie, à atteindre leurs objectifs, à être productif au quotidien, c'est ça un peu sa phrase clé. Et en préparant ce message, j'ai réalisé qu'il employait en fait le même vocabulaire que l'auteur des Proverbes qui utilise les images agricoles pour nous enseigner les principes du zèle et de la paresse. Okay? Mathieu est un expert en productivité. Atteindre des objectifs dans la vie, c'est être productif. Bien accomplir ton travail avec zèle, accomplir tes tâches, être organisé. C'est être productif, c'est produire du fruit. Produire du fruit dans le champ de ta vie. La Bible nous dit qu'on reconnaît aussi un arbre à ses fruits, au sens où les fruits extérieurs reflètent ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que les fruits de ta vie reflètent tes aspirations intérieures et les aspirations de Dieu intérieures? Si dans ton cœur, tu dis, ben, je voudrais avoir une meilleure relation avec mes enfants, quels sont les fruits actuellement? Est-ce que l'évaluation que tu fais de ta relation est équivalente à ton désir intérieur, finalement? Si dans ton cœur, tu te dis que tu aimerais faire de la peinture ou de la musique, es-tu en marche vers ça? Quels sont les fruits? Est-ce qu'ils correspondent à ce que tu veux être? Si dans ton cœur, tu te dis « j'aime Dieu, je veux une relation avec lui », est-ce que les fruits correspondent? Te sens-tu près de lui? Est-ce qu'il dirige tes choix et tes décisions? Et si la réponse est non, ça peut être toutes sortes de choses, mais il y a une possibilité que ce soit un problème de paresse, de procrastination, de manque de vision à long terme qui t'empêche de te mettre en marche pour atteindre tes objectifs. Et je t'encourage, là, c'est vraiment très pratique, là, mais je t'encourage cette semaine à réfléchir à tes aspirations, aux choses aussi, pas juste tes aspirations, hein, c'est bien beau faire des choses qu'on a envie de faire, mais aussi tes responsabilités. Pense à tes responsabilités, à tes aspirations, à ce que Dieu met sur ton cœur, à ce qu'il te demande de faire, à ce que ta famille te demande de faire aussi. Et par la suite, fixe-toi des objectifs clairs, évalue les fruits, et là tu dis « ok, ouais ». Non, ça marche pas, mais je veux ça. Donc, fixe-toi tes objectifs. Mais au contraire du paresseux qui s'arrête à cette étape d'avoir des désirs, mais de ne pas travailler pour les satisfaire maintenant pour atteindre ses objectifs, pour passer à l'action, pour te mettre en marche, écris-toi justement trois actions concrètes que tu veux poser pour atteindre ces objectifs-là. Par exemple, si ton objectif, c'est d'avoir, encore une fois, une meilleure relation avec tes enfants, voici trois actions que tu pourrais poser. Ben, les appeler une fois par semaine s'ils n'habitent plus à la maison, si c'est des grands-enfants. Les inviter à manger les jours fériés. Ça peut être une autre chose à faire. Et maîtriser tes paroles et tes émotions quand ils viennent te chercher. OK? Quand ils viennent te chercher. Non, pas ici. Ici, tout va bien. Nos familles sont parfaites. Si ton objectif, c'est d'avoir une meilleure relation avec Dieu, voici trois actions que tu pourrais faire. Lire ta Bible 15 minutes trois fois par semaine si tu la lis pas du tout. Aller à l'église, participer à un petit groupe de prière à l'automne. des choses concrètes pour mettre en action nos désirs intérieurs. Proverbe 13, 4 nous dit « Le paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, tandis que les personnes actives sont comblées. » Le paresseux ne produit rien, mais le zèle te permet d'accomplir les choses que tu dois faire et les projets aussi que Dieu te met à cœur. Ça nous permet d'être productifs, de produire du bon fruit pour Dieu et pour les gens qui nous entourent. Amen. Terminons maintenant le portrait du paresseux avec notre dernier P, le paresseux procrastine. Ça va pas bien son affaire. Il ne produit rien et donc, il est pauvre. Il est pauvre. C'est tout à fait logique. Tu procrastines, tu ne produis rien. Si tu ne produis rien, tu deviens pauvre. Et comme j'ai dit plus tôt, le paresseux procrastine parce que l'effort à fournir maintenant ne semble pas valoir la peine. Son confort d'aujourd'hui vaut plus que l'effort qu'il va rapporter plus tard. Mais ce que le paresseux croit gagner en ne se mettant pas à la tâche, il le perd plus tard parce qu'il regrette de ne pas l'avoir fait et ne profite pas aussi du bénéfice d'avoir fait la tâche. Okay? Ça semble un peu abstrait, mais vous allez voir, je vais vous donner des exemples. Proverbe 28, 18 nous dit aussi ceci. « Celui qui cultive son terrain est rassasié de pain. » Donc, il est riche. Celui qui poursuit des réalités sans valeur est rassasié de pauvreté. Le paresseux pense ne pas payer le coût du travail nécessaire pour la tâche à accomplir, mais à la place, il poursuit des réalités qui, en fait, ont moins de valeur. C'est pour ça aussi qu'il s'appauvrit. « Oh non, ça ne me tente pas pantoute de faire la vaisselle à soir. » Amen! Ma place, je vais plutôt écouter un autre épisode Netflix. Okay? Et sur le coup, le paresseux ne paye pas le coût de la vaisselle à faire. Mais le lendemain, il va devoir quand même la faire, avec en plus les croûtes de lasagne qui ont séché dans le plat. Là. Okay? Mais le paresseux a toujours une solution dans son sac. Hein? Quand les croûtes ont séché dans le plat, on laisse tremper. On va pouvoir le laver le lendemain. Procrastine. Mais en plus de ça, sa femme est pas contente de voir la vaisselle pas faite le lendemain matin en prenant son petit café. OK, alors pour avoir pensé ne pas payer le coût de faire la vaisselle, avoir plutôt poursuivi des réalités sans valeur, le paresseux paye encore plus cher parce que ça a amené un conflit dans son couple. Est-ce que ça valait la peine finalement d'attendre de faire la vaisselle, hein, Julien? On peut mettre ça au féminin. Je ne sais pas qui cuisine dans votre foyer, mais vous comprenez l'idée. À quel point aujourd'hui l'expression des réalités sans valeur prend tout son sens? Oh là là! Avec les technologies, avec les plateformes de divertissement, les réseaux sociaux, les écrans, les jeux vidéo, TikTok, Instagram, réalités sans valeur. Et je parle pas de repos, hein. Attention ici, là, avec modération, avec équilibre, les choses peuvent être très bien, puis ça peut être bon même. Mais la différence entre la paresse et le repos, c'est que la paresse précède la tâche, tandis que le repos suit la tâche. La paresse t'empêche de faire les choses que tu dois faire ou les choses qui seraient mieux pour toi. Le repos te permet de recharger tes batteries après la tâche pour être en mesure après d'en accomplir une autre. C'est un cycle. Repos, travail, repos, travail. C'est pour ça que Dieu a créé dans les premières pages de la Bible le sabbat. C'est pour ça qu'on a le droit de se reposer. Et c'est tellement logique que ce qui soit sans valeur soit plus facile et accessible. Hein, comme on a vu, les écrans, tout ça, c'est tellement accessible. Parce que pensez-y bien, tout ce qui a de la valeur nécessite du travail, qui a un accomplissement, une relation, une carrière, une église, un mariage, se monter une clientèle pour ton entreprise, une réputation, un témoignage. Tout ça, ça prend, ça demande du travail parce que ça a de la valeur. Et dans le même article de la presse que j'ai cité tout à l'heure, de l'auteur du livre sur la procrastination, il dit ceci, « De nos jours, avec la technologie au bout des doigts, les tentations de procrastiner sont infinies. » Oh, c'est clair. Et si dans les années 70, seuls 4% des gens souffraient de procrastination chronique. OK, là, ça, c'est le next level de la procrastination, là. C'est comme t'es même pas capable de faire les choses, là. Ça devient problématique dans ta vie. Mais aujourd'hui, c'est une personne sur quatre, 25%. Difficile, en effet, de résister à l'Internet, au boulot, à Facebook, à Twitter et aux autres sources infinies de plaisir immédiat. Encore une fois, c'est l'idée du plaisir immédiat. Et c'est tellement facile de choisir les réalités sans valeur de nos jours en pensant que ta paresse te permet de ne pas payer le coût de la tâche à faire, comme dans mon exemple de tantôt. Mais regardez comment l'article se poursuit. C'est fou. Cela finit par coûter cher. Ainsi, si comme l'affirment plusieurs études, nous passons effectivement 2 heures par jour à procrastiner au travail, mais pas vous, hein, mais non. Oh non, 9 à 5, comme un robot. Cela pourrait coûter des centaines de millions de dollars à l'économie aux États-Unis seulement, mais c'est vrai quand on y pense, c'est le temps qu'on perd au travail, par exemple, ça coûte à l'employeur. Et c'est sans compter toutes les conséquences néfastes que cela peut avoir sur nous individuellement, pour notre santé individuellement, pour notre santé. Si nous remettons sans cesse à plus tard notre rendez-vous annuel chez le médecin, notre portefeuille si nous ne payons pas nos factures, notre carrière si nous ne rendons pas nos dossiers à temps, notre vie affective si nous ne donnons pas signe de vie à nos amis, etc., etc. C'est ce que dit l'article. Non seulement la paresse fait que tu ne produis rien, mais en plus, elle t'appauvrit. Parce qu'elle te fait poursuivre des réalités sans valeur au lieu des objectifs de Dieu. Et parce que de toute façon, même si tu crois peut-être que ta paresse te permet de ne pas payer le coût de la tâche à faire, un jour ou l'autre, tu vas devoir soit faire la tâche, soit payer la conséquence de la tâche qui n'est pas faite, ou soit quelqu'un d'autre va être obligé de le faire à ta place. Ça, t'aimes pas ça non plus. Voici quelques exemples, OK, de coûts à payer là, pour des choses que tu remets à plus tard. Des intérêts sur ton paiement en retard, c'est aussi simple que ça. La perte de confiance de ton patron parce que tu remets quelque chose en retard. La perte, une maison en désordre. Ça peut être des choses très banales aussi. Une maison en désordre parce que tu repousses le ménage. Un problème de santé parce que tu n'as jamais pris au sérieux ton alimentation. Une amie blessée, etc. Ta mère qui doit faire le ménage à ta place parce que tu ne l'as pas fait, etc., etc., etc. Et le plus grand coût à payer, hein, c'est quand il est trop tard. Ça peut arriver aussi. Parce que quand on repousse à plus tard, il est parfois trop tard. Le dossier de candidature que tu dois remettre, mais finalement, tu arrives à la date d'échéance, puis finalement, ça va aller à l'année prochaine où tu ne pourras pas faire ces études-là, ce programme-là. La personne avec qui tu voulais te réconcilier, qui finalement déménage à l'étranger. Le toit que tu devais réparer, qui finalement brise complètement, puis ça te laisse dans une situation encore plus compliquée. Okay? La paresse nous appauvrit parce que elle coûte cher, elle finit par coûter cher à quelque part. Et la paresse aussi nous amène une pauvreté émotionnelle. Okay? Proverbe 19:15 nous dit ceci: la paresse fait tomber en torpeur, un peu comme une méduse. Celui qui est nonchalant aura faim. Donc, voilà. Au lieu de vivre des émotions, même des émotions qui semblent négatives, comme la tristesse ou même la colère, la paresse nous fait entrer dans un état de torpeur, une indifférence, une léthargie, pas envie de rien, un genre d'engourdissement, comme une larve. Et l'article du New York Times mettait en garde contre l'état de léthargie, justement, qui tranquillement s'amène. Parce que je vous ai dit, c'est le spectre de la santé mentale, mais tranquillement, si on continue à aller là-dedans, ça nous amène vers le côté de la dépression, finalement. Tout finit par s'émousser à l'intérieur de nous. Et on glisse tranquillement dans la solitude et on devient indifférent face à notre indifférence. Et la paresse aussi nous amène aussi une pauvreté spirituelle, OK? On va s'avouer, c'est clair que c'est bien plus facile d'écouter l'Église en ligne en pyjama avec ton café. On s'entend? Oui, c'est plus facile, ça demande beaucoup moins d'efforts. Tu prends même pas ta voiture, ça coûte moins cher d'essence. Puis ton bon petit café tranquille. C'est certain que c'est plus facile de m'écouter parler 30 minutes que de prendre du temps aussi toi-même durant la semaine avec Jésus, t'approcher de lui, prendre du temps pour la louange, la lecture de sa parole. C'est clair que c'est plus facile d'aller à l'église incognito, de partir vite et tout, mais ça ne t'enrichit pas autant que si tu participais activement à l'église en construisant des relations de redevabilité pour te challenger, te faire avancer plus loin. OK, donc résumons les traits de notre paresseux. Le paresseux procrastine, il ne produit rien, il est pauvre. Et dans sa lettre, Jacques va comparer la Bible à un miroir parce que quand on plonge le regard dans la parole de Dieu, on peut se voir et laisser Dieu aussi nous corriger. Alors, si tu trouvais que ces caractéristiques te correspondaient, voici ton portrait, si on peut voir à l'écran. Voici à quoi tu ressembles. Voici le portrait du paresseux. Donc, une belle tête de champion ici. Je trouvais ça très drôle. Donc, comme j'ai dit, si le chapeau te fait, mets-le. Bon, ils sont cute, les paresseux, hein? Ils sont très drôles. Donc, ce matin, on a commencé avec la mauvaise nouvelle, OK? Donc, l'émotion de 2021 et peut-être, en tout cas, qui est venue jusqu'en 2022, selon moi, là. La léthargie, en tout cas, on a de la misère des fois à se remettre en marche, hein, dans la normalité. Mais maintenant, on arrive tranquillement à notre bonne nouvelle. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Regardons maintenant au portrait du zélé. Le portrait du zélé. Ça ne sera pas très compliqué. On n'aura pas besoin d'aller très loin. Pour ce faire, on a tout simplement à plonger nos regards sur Jésus. Jésus, notre modèle ultime. Dans Philippiens 2, 5 à 16, l'apôtre Paul va dire que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Et là, qu'est-ce que Jésus a fait? Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. En d'autres termes, Jésus est l'incarnation du zèle. Jésus a tout fait parfaitement. Il a tout accompli. Il a fait tout ce que son Père lui disait de faire. Il a accompli toute sa volonté. Il le fait jusqu'au bout, avec excellence. Il est allé jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix pour nous. Et Paul nous encourage à faire de Christ notre exemple. Et quelques versets suivants, l'apôtre Paul en rajoute une couche en plus. Okay, il va dire ceci au verset 12. Mettez en œuvre votre salut. En d'autres termes, en marche. Mettez en œuvre votre salut. OK, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, mais après, Jésus ne nous appelle pas à rester les bras croisés ou à être accrochés à un arbre comme les paresseux et à avancer à 0,6 km/h. Mais à être remplis de zèle pour son nom, à mettre en œuvre notre salut dans la vie. OK, mais là, Pasteur Élise, on dirait que c'est encore pire comme mauvaise nouvelle. Tu nous dis qu'on vit dans une période de léthargie, mais que Dieu nous demande de rester zélés. C'est encore plus lourd à porter comme poids, OK? Et où la bonne nouvelle là-dedans, on s'entend, est au verset 13. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas seulement sauvé par la grâce, tu te mets aussi en marche par la grâce de Dieu. Chaque pas que tu fais, tu le fais par sa force. Tu le fais en pleine dépendance de lui. Tu n'es pas capable de te sauver tout seul par tes propres efforts, tout comme tu n'es pas capable d'avancer par tes propres efforts. C'est pour ça que Jésus est là. C'est pour ça que Jésus a tout fait à notre place. C'est de lui que dépend ta volonté et ta capacité à te mettre en action, à être zélé. Parce que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Moi, c'est une bonne nouvelle. Moi, pour moi, ça me dégage de tellement de choses. C'est lui qui crée en moi le vouloir et le faire. Dieu veut placer en toi son désir de faire sa volonté. Dieu veut te faire ressentir le vouloir. Il veut te faire ressentir des choses qui vont te pousser à te mettre en action. Contrairement au paresseux qui, lui, est complètement engourdi, indifférent. Le zèle de Dieu te permet de prendre les choses à cœur. Et remarquez que la seule fois où il est écrit littéralement que Jésus a du zèle, c'est dans l'Évangile de Jean au chapitre 2, verset 17. C'est au moment où Jésus se met en colère dans le temple parce qu'il y a des vendeurs qui sont là, qui veulent faire du profit sur la vente des animaux, des échangeurs de monnaie, etc. Ils veulent faire du profit sur la vente des animaux ou des aliments pour les sacrifices. Et là, regardez ce qui est écrit. Qu'est-ce que Jésus a fait? Alors, il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa leur table. Il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il était écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » C'est fou, la seule fois où il est littéralement écrit que Jésus était zélé, c'est quand il s'est mis en colère. Ça paraît négatif, mais non, c'est parce que Jésus a pris à cœur la cause de Dieu, la cause du royaume de son Père. Jésus n'était pas indifférent, il est allé jusqu'au bout avec amour. Et rappelez-vous, le fruit de l'Esprit, c'est l'Esprit produit ça en nous. C'est des émotions, c'est des états d'âme. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. C'est pas comme des choses banales, là. C'est des choses qu'on ressent à l'intérieur, au plus profond de nous. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Le zèle nous fait ressentir des choses qui nous poussent à nous mettre en action. Et quand on veut quelque chose, vous êtes d'accord avec moi que souvent, c'est déjà la première étape vers l'action. C'est déjà plus facile quand on désire quelque chose. Dieu crée en nous le vouloir. Mais on a vu plutôt que le paresseux avait aussi de la misère à se mettre en action, même quand il avait un désir. Mais Dieu ne nous laisse pas tomber encore une fois. Il va jusqu'au bout. Alors, il crée en nous le vouloir et le faire. Et le vouloir et le faire. Il t'accompagne tout au long du chemin pour te donner la force, le zèle d'accomplir ce qu'il veut que tu accomplisses. Alors, si tu veux être zélé, je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre. Si tu veux être zélé, donc, tu vas avoir besoin de plus de Dieu. Parce que c'est lui qui crée en toi le vouloir et le faire, tout simplement. Et ne pas passer du temps dans la présence de Dieu et essayer de vivre ta vie le mieux possible, c'est essayer de faire les choses par toi-même. C'est essayer de faire les choses par toi-même. Et ça, c'est le contraire du message de l'Évangile. Parfois aussi, la paresse ou la procrastination, c'est parce qu'on soit on a trop de choses à faire, on se sent débordé. Ou encore que les choses à faire nous semblent comme des montagnes. Est-ce qu'il y en a qui se sont déjà sentis comme ça? Les choses que tu dois faire dans ta to-do list, c'est comme une montagne inatteignable. Mais c'est justement dans ces moments-là que tu as besoin, que tu as le plus besoin de Dieu. Quand tu sens que tu n'y arriveras jamais. Quand tu ne ressens même pas le désir de faire la chose, même si tu sais que tu dois les faire. De prendre tes responsabilités. De bien faire ton travail avec zèle. Et je ne sais pas pour vous, mais c'est souvent dans ces moments-là où je me sens complètement incapable que j'essaye le plus par moi-même. Quand je me sens démunie devant quelque chose que je n'ai pas envie de faire, je vais avoir le réflexe de me raisonner, d'essayer de me donner du courage, de trouver du courage interne. Hein? Allez, ressaisis-toi! Ou de trouver dans la Bible, la Bible me dit de faire ça, là, fait que go! La Bible me dit de faire moins ça, fait que allez, ressaisis-toi. J'essaie de trouver en moi la force d'accomplir. Pourtant, si tu avais une seule chose à faire après ce message, une seule, c'est t'approcher de Dieu pour le laisser te remplir de sa force, de son zèle, de tout ce dont tu as besoin pour accomplir les choses qu'il te demande d'accomplir. Le prophète Isaïe a dit que celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces, renouvelle son zèle. C'est pas un petit verset à mettre dans ton agenda, de même banal, là. C'est pas juste ça, tu mets ça sur ta voiture, puis c'est vrai, c'est la vérité. Celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces, renouvelle son zèle. Et si je te disais que si tu veux être plus zélé, tu devrais, en fait, en faire moins? Bizarre. Ça paraît pas ironique? Paresseux, si tu veux être moins paresseux, continue de ne rien faire. En fait, ne fais rien, mais laisse Dieu faire le reste. Ne fais rien à part courir vers Dieu pour lui demander sa force et son zèle, le vouloir et le faire, et il va répondre. Il va le faire, c'est sa parole, c'est ses promesses. Laisse Dieu prendre ta place au combat. Martin Luther a dit ceci: « J'ai tellement de choses à faire aujourd'hui que je vais avoir besoin de passer 3 heures dans la prière pour être capable d'accomplir toutes mes tâches. » Et je l'ai vécu cette semaine, je me sentais complètement débordée par toutes les tâches que je devais faire, mais à la place de me mettre au travail, j'avais plus dû, comme on dit, mais à la place de me mettre au travail et de dire « il faut que j'accomplisse mes choses », je suis allée marcher, je suis allée écouter de la louange, je suis allée me confier en l'Éternel, et ça a tout changé, parce que je peux rien sans Jésus. Jésus est venu recharger mes batteries. Il m'a rempli de son zèle. C'est à ses côtés que tu vas trouver tout le nécessaire pour te mettre en marche, pour persévérer sur le chemin de la sagesse à tous les jours. Trouver en lui le vouloir et le faire et se mettre en marche par la foi. Ça a toujours été l'intention de Dieu, même avant la venue de Jésus. Jésus a tout accompli pour nous, mais Dieu accomplissait tout aussi dans l'Ancien Testament. Mais Dieu disait au peuple d'Israël, « N'ayez pas peur d'eux, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. » Dans Deutéronome 1:30, « L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même, il combat lui-même pour nous. » C'est lui qui le fait. Il combattra lui-même pour vous conformément à tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Il le refait sans cesse, d'un coup vert à l'autre de la Bible. Dieu veut le faire à ta place. Quoi? Quelle grâce! Quelle grâce! Il veut te remplir de son zèle. Il veut créer en toi le vouloir et le faire. Alors laisse-le faire. Laisse-le faire. Et je veux qu'on chante cette chanson ensemble qui dit: quand je suis face à la montagne, la fameuse montagne des choses à accomplir, tu la vois déplacée. Tu la vois déplacée. Quand je combats à genoux. C'est lui qui combat pour nous. Mes mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient. La bataille t'appartient. Tu marches devant moi. Tu marches devant moi. Je ne sais pas si vous avez besoin d'être renouvelé ce matin, renouvelé de zèle, que Dieu crée en vous le vouloir et le faire, mais je veux vous inviter, tous ceux qui le veulent, je veux vous inviter à vous lever, on va chanter ce chant.